Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Keren Elkaïm et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui, ravie surtout de recevoir ces trois écrivains merveilleux que je vais vous présenter en quelques mots, même si j'imagine que vous les connaissez déjà ou que vous avez déjà lu certains de leurs livres. Alors Muriel Barberi voit le jour à Casablanca, au Maroc. Après des études à l'École normale supérieure de Paris, s'est agrégée de philo, devient enseignante à Saint-Lô. Elle publie par ailleurs son premier roman, Une gourmandise. S'ensuit L'élégance du hérisson, adapté sur grand écran avec Josiane Balasco, La vie des elfes ou le diptyque, Une rose seule et à présent Une heure de ferveur aux éditions Actes Sud. Est-ce que c'est possible de faire un peu plus fort à la technique? Vous entendez bien? D'accord, parfait. C'est un livre, ce sont donc deux textes, deux romans inspirés par son séjour au Japon, on va y parler. Et dans ce volet-là, on suit la vie de Haru, un homme qui cherche l'harmonie, la beauté et l'amour. Mais l'existence est souvent semée d'embûches. À nos côtés également, nous avons Franck Bouys, qui est un enfant du pays, puisqu'il est né à Brive-la-Gaillarde. Proche de la nature, il fait des études de biologie, matière qu'il enseigne à Limoges, mais l'écriture le démange depuis longtemps. Alors il compose de nombreux romans, dont L'entomologiste, la trilogie H, Noire porcelaine, Grossir le ciel, Glaise, Né d'aucune femme et Buveur du vent. Aujourd'hui, nous allons parler de L'homme peuplé chez Albin Michel, qui nous invite à suivre plusieurs destins dans un petit village perdu, dont celui d'un écrivain ou d'un autre personnage énigmatique, avec cette question: pourquoi est-il impossible de fuir son passé? Enfin, à nos côtés également, Sybille Grimbert, qui est née à Paris. Elle a fait des études de droit et de lettres et fondé les éditions Plein Jour, qui sont consacrées à la littérature du réel, les enquêtes historiques ou des essais. Outre son premier roman Bird Days, elle a publié Le centre de gravité, une absence totale d'instinct, Le fils de Sam Green, Avant les singes, ou Le dernier des siens chez Anne Carrière, qui nous entraîne au loin en 1835, alors qu'un jeune scientifique va être chargé d'analyser la faune au nord de l'Europe, mais lors d'une mission, il va assister à la mort massive de pingouins, de grands pingouins qui n'existent plus. Il parviendra à en sauver un seul, avec lequel il va tisser des liens tout au long de sa vie. Alors bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous. C'est évidemment l'écriture qui vous unit avant tout. Franck, comment vous êtes devenu un homme peuplé de lecture et d'histoires à raconter?
Pardon, comment?
Comment vous êtes devenu un homme de lecture?
Moi?
Oui, ah, vous.
D'accord. Comment je me suis peuplé donc?
Peuplé de livres, peuplé d'histoires à raconter.
Tout simplement en découvrant quelques textes comme ça, à 13-14 ans, L'île au trésor, L'Iliade et l'Odyssée, Les enfants du capitaine Grant. Je me suis dit, bon sang, c'est ça que je veux faire, quoi. Je veux raconter des histoires un jour. Sauf que voilà, je ne viens pas tellement du monde des lettres. Et il fallait faire un vrai métier, donc j'ai appris un vrai métier, mais sans jamais lâcher l'affaire.
Ça vous poursuivait donc depuis l'enfance. Muriel, quand est-ce que vous avez compris à votre tour que la littérature allait devenir l'un des fils de votre vie et que c'était le chemin de votre destin?
Alors, c'est une question, bonjour à toutes et tous. C'est une question complexe, mais je crois que ça a commencé avec oui, même avant... Avant les textes de l'adolescence, qui sont bien sûr des textes fondateurs, je pense que mes premières lectures d'enfant ont ouvert le champ de l'imaginaire et je me suis toujours sentie chez moi dans les livres et dans la langue française.
Alors, Sybille, contrairement à nos deux invités, vous avez avoué ne pas être une lectrice précoce. Comment est-ce que, néanmoins, vous avez pris, pour vous citer, la décision la plus saugrenue de votre existence en devenant écrivain à votre tour?
Alors, j'étais quand même une lectrice. À un moment, à l'adolescence, j'ai un peu abandonné, mais j'étais quand même une lectrice et Là où c'est un peu différent, évidemment, j'avais envie de raconter des histoires, mais surtout, je trouvais qu'il n'y avait rien de plus prestigieux au monde que d'écrire. De ce point de vue-là, c'était le métier que je trouvais le plus beau, le plus fantastique. Mais j'avais peur d'écrire. Et donc, je me disais, c'est tellement extraordinaire que c'est... Alors là, j'étais déjà devenue une grande lectrice. Tu ne pourras jamais faire une chose pareille. Donc, je voulais travailler dans l'édition. Et ça a été une catastrophe. J'ai été une stagiaire assez médiocre, enfin bref. Et un jour, je me suis dit, mais vas-y, t'as envie d'écrire. Tu dis que c'est extraordinaire, bah, essaie d'écrire. Et puis, règle la question. Et si tu n'y arrives pas, eh ben, tu laisseras tomber pour la fin de tes jours, mais au moins, t'auras vu. Puis tout d'un coup, donc, j'ai écrit un manuscrit en essayant d'imiter les auteurs que j'admirais. Et puis finalement, le virus m'a pris. Je trouvais qu'il n'y avait rien de plus... passionnant à faire, amusant, le temps passait plus vite, c'était merveilleux et j'avais envie de reproduire le plaisir que les livres me donnaient.
Franck, dans ce livre, vous mettez en scène un écrivain aussi, à travers lui, vous nous dites beaucoup de choses de l'écriture, puisque vous écrivez, écrire des histoires sur papier, en raconter dans sa tête, n'est-ce pas aussi une forme de sorcellerie? Est-ce que ça l'est pour vous? Est-ce que c'est une forme de magie pour vous?
Ouais, certainement. Ouais, c'est assez étonnant de. Je sais pas de pas trop me poser de questions quand même, sinon ça m'entraînerait un peu loin parfois. Mais c'est assez troublant de le surgissement en fait, c'est-à-dire cette comment les images mentales deviennent des phrases, comment ça s'acoquine tout ça. C'est toujours assez troublant parce que moi je sais jamais ce que je vais raconter. Avant d'écrire cette fameuse première phrase. Et y a quelque chose, voilà. Après, c'est beaucoup de travail, mais il y a un truc comme ça qui est très étrange. Alors, moi, j'aime beaucoup cette idée que je n'ai pas d'imagination et que l'imagination, c'est l'art de recomposer sa mémoire. C'est-à-dire que tout ce que j'ai vécu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu... passer au filtre de mes émotions, ça devient un livre à un moment donné. Et je trouve ça assez extraordinaire.
Muriel, vous écrivez que les histoires nous parlent sans que nous sachions comment. Mais est-ce que vous savez comment elles viennent à vous, comment elles naissent en vous?
Non, pas du tout. Et d'ailleurs, je ne m'en préoccupe pas. Parce que ce dont je me préoccupe, c'est de la langue, de la musique, d'une certaine intuition de forme que j'ai. Je suis certaine que les histoires qui sont tapies en moi... qui me composent, qui me tissent, qui sont le fait même de la vie que je mène, surgiront à un moment donné si je trouve la bonne forme, si je trouve le bon réceptacle pour qu'elles surgissent soudain, comme Franck, sans savoir à l'avance ce qui va surgir, mais en ayant confiance qu'à partir du moment où on commence à déployer les phrases, quelque chose va se dire et quelque chose va se raconter avec, je l'espère, le plus d'authenticité possible.
Sybille, dans votre livre, Gus, qui est donc le héros principal, se demande qui de lui ou de Prosp, qui est le prénom du pingouin, voyait le monde tel qu'il était. Et il dit finalement, en vérité, chacun le voyait à sa manière, que ce soit en tant qu'éditrice ou qu'écrivain. Qu'est-ce qu'il y a de plus étonnant dans la façon de décrire le monde, de le voir sous des jours différents?
En tant qu'éditrice, justement, ce que j'aime bien, c'est rencontrer des gens qui ne pensent pas comme moi, qui ne voient donc pas les choses comme moi, et qui vont me les raconter. J'aime énormément la diversité de points de vue, et de connaissances. En tant qu'auteur, je me pose pas trop la question. Et à la différence de vous deux, même si je trouve formidable, moi je pars d'une idée en fait. C'est tout d'un coup, je me dis, je fais confiance en mon écriture d'une part. Je me dis, enfin, non pas que je crois que tout ce que je fais est bien, loin de là, mais quand j'y vais, j'y vais. Et je me dis, j'ai envie de raconter quelque chose. Souvent, d'autres histoires m'ont amené à me dire, tiens, ça, c'est formidable. C'est, le lien avec un animal, par exemple, ça venait de certaines lectures que j'avais eues, et puis du fait aussi que j'ai un chat et que j'aime le regarder, mais aussi de lectures d'une femme que j'avais éditée. Voilà comment les différents points de vue passent. D'une femme que j'avais éditée, qui est une grande scientifique américaine, qui avait adopté un perroquet. Et tout est vrai, enfin, c'est pas un roman. Et elle raconte son lien avec ce perroquet. C'est une très grande ornithologue également. Et c'était génial, parce que les oiseaux ne m'intéressaient pas particulièrement. Et tout d'un coup, elle le décrivait tellement bien que je voyais comment toutes choses vivantes sont intéressantes. Et je me suis dit, et tout d'un coup, ça m'a familiarisé avec la chose. Et puis ça, mon chat, la sixième extinction, enfin plein de choses en même temps, m'ont amené à m'intéresser à ça, au lien incroyable, mystérieux qu'on a avec un animal. Et pour finir, pour revenir avec ce que vous dites, c'est, personne ne voit le monde de la même manière. Ça, c'est un truc que je trouve de toute façon fascinant. Avec les animaux, c'est très évident, parce qu'on sait, ils ne voient définitivement pas la même chose que nous. Ils n'ont pas les mêmes couleurs, ils n'ont même pas le même espace. Parfois, ils ont les yeux ici, donc ils ne composent pas. Et pourtant, nous vivons dans le même monde. Et c'est un truc que je trouve totalement vertigineux. Pour moi, l'herbe est verte, les nuages sont blancs et le ciel est bleu ou gris. Pour lui, de façon tout aussi certaine, l'herbe a une autre couleur, voire pas de couleur du tout, et il n'y a que le brin d'herbe qui bouge, qui apparaît. Et pourtant, nous vivons dans le même monde. Et du coup, c'est presque à se demander si le monde que nous voyons est celui qui existe. Enfin, si ça se trouve, la plante n'est pas verte, mais elle est... elle a une couleur de laser, enfin, j'en sais rien. Enfin, vous voyez, c'est des vertiges intellectuel, mais simple, que, dans lesquels j'adore me perdre.
Sybille parle de ces différentes façons de voir le monde. Vous, Franck, vous écrivez « Je crois qu'il n'existe pas une seule vérité », comme le dit l'un de vos personnages. Quelle vérité est-ce que vous essayez de creuser, de construire à travers vos romans, ou un roman comme le dernier, par exemple ?
Ben, la mienne me suffit. C'est-à-dire d'essayer de rendre quelque chose de l'ordre de ma propre vérité, ce qui rejoint ce que tu dis, c'est cette réalité du monde qui n'existe pas. La réalité n'existe pas. Mais ce qui est intéressant, ce qu'un romancier, ce qu'un peintre peut faire, c'est vous faire entrer dans sa vérité. Parler de que quand Van Gogh peint un ciel, c'est jaune, etc. Ce n'est pas la réalité, on est d'accord. Mais il vous transporte, il vous amène dans sa propre vérité. Et c'est ce que, quand j'écris, quand je lis, qu'est-ce que je cherche à faire ? Je cherche à me soulever. Je cherche à ajouter quelque chose à ma vie. Je cherche à déstructurer cette réalité. Mais tout ça, ça rejoint ce qu'on disait, c'est passer à tous ces filtres-là émotionnels qui font que finalement, ce qui est intéressant, ce n'est pas les histoires qu'on a tous dans la tête, que vous avez tous dans vos têtes, tous et toutes. C'est comment ces histoires, on peut les raconter. C'est-à-dire comment on peut transformer cette réalité. C'est-à-dire quelles sont nos couleurs, quelle est notre musique. C'est ça qui est intéressant. Notre propre grain de voix. Sinon, ça ne sert à rien.
Muriel, au sujet de la vérité, l'un de vos personnages dit, se demande s'il aime le nom. Le nom, on peut peut-être dire en quelques mots ce que c'est.
Oui, une forme traditionnelle de théâtre japonais. Et comme l'histoire se passe au Japon, il y a à un moment donné une représentation de no ou vague personnage principal.
Donc quand quelqu'un lui demande « Est-ce que vous aimez le no ?» il dit « Qu'est-ce que vous aimez dans le no ?» il répond « La vérité, justement. » Vous avez, à travers ces deux livres, imaginé un diptyque, l'un étant raconté à travers la fille, l'autre à travers le père. Est-ce que c'est une façon de montrer que chacun a sa vérité personnelle, sa propre façon de voir les choses ?
Je ne vais pas jusque-là. Vous savez, quand on écrit un roman, justement, je crois que l'on met les concepts entre parenthèses. J'ai une formation de philosophe que j'ai abandonnée avec un très grand plaisir pour écrire des romans parce que ce que j'aime, justement, c'est ne pas avoir à énoncer de messages, ne pas avoir à démontrer quoi que ce soit, mais juste laisser le flux de l'existence au travers des histoires qui se forment par la magie des phrases, permettre de me traverser et de donner accès à une meilleure compréhension peut-être des choses, de moi. Donc il n'y a pas de réflexion ni de préméditation dans ce que je fais.
Mais pourquoi alors avoir imaginé
Mais c'est pas du tout imaginé, ça s'est pas fait comme ça. C'est-à-dire que j'ai écrit un premier roman, Une rose seule, qui racontait l'histoire de cette jeune femme qui se rendait au Japon pour entendre le testament d'un père japonais qu'elle n'avait jamais rencontré. Je l'ai terminé, j'ai pensé faire tout autre chose. Et puis je me suis rendu compte que les personnages me manquaient terriblement. Et donc je suis remontée dans le temps pour raconter l'histoire de ce père absent. Et donc dans le premier livre, la fille, le père est absent, et dans le second ou le deuxième, c'est elle qui est l'absente. Aucune préméditation, les choses se sont faites naturellement et sans que j'aie imaginé que ça allait se produire comme ça.
Ce qu'on retrouve également dans vos trois livres, c'est l'amour de la nature. Vous en parliez, Franck, Sibylle, la nature, elle est omniprésente dans ce livre. J'ai presque envie de dire que c'est un personnage à part entière et à l'heure d'aujourd'hui où elle est justement tellement menacée. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de la célébrer à travers ce duo étonnant homme-animal et d'autant plus à travers un animal, le grand pingouin qui n'existe plus ?
Alors là, je vais répondre comme Muriel, en fait. C'était pas prémédité. Ce que je savais, c'est que je voulais raconter donc un lien avec un animal, et puis surtout, j'avais été fascinée par le dodo, puis par tout ce qu'on nous disait sur la sixième extinction, et l'idée même d'un animal seul qui, un mois avant, avait encore peut-être un reste des siens. Et qui tout d'un coup est le seul, l'unique à être comme ça sur Terre, je trouvais ça vertigineux. Alors il se trouve que quand j'ai trouvé le grand pingouin qui est plus proche de nous, qui parle d'une époque qui nous est très proche, et ainsi de suite, je ne pouvais pas faire autrement que de le faire mettre dans la nature. Je n'allais pas le mettre dans une ville. Il vivait dans la nature, donc on l'a trouvé dans la nature, et puis il vaut mieux quand même y rester pour qu'il y ait un semblant, pour qu'il survive. Et c'est comme ça que je suis arrivée à rester, là en l'occurrence, dans l'Atlantique Nord, autour de l'Islande et dans les îles du coin, avec une incursion à Copenhague. Mais si vous voulez, c'est... Et une fois que j'étais dedans... J'étais, au fond, j'écris toujours à ma hauteur, c'est-à-dire que j'étais comme le personnage, comme Gus, donc une hauteur humaine, et quand on voit les choses, ben, elles provoquent des sensations, et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de les décrire le plus précisément possible. Et c'est aussi comme ça que je m'amuse, en fait, que j'ai l'impression de jouer comme quand j'étais enfant et que je jouais avec des poupées, et qu'il y avait l'histoire de « elle dirait ci, il dirait ça, il ouvrirait telle porte », et là aussi, avec des réflexions, tout d'un coup, une chose en amène une autre. Et au fond, c'est ça que j'adore. Et c'est comme ça que j'aime écrire. Il m'arrive souvent d'essayer d'écrire des livres et puis de ne pas arriver à ce moment-là où tout me paraît téléguidé. Ça a toujours donné des catastrophes qui ont terminé à la poubelle. Hein, et j'en suis très soulagée. Donc en fait, c'est ça. Je suis le chemin et j'essaie de le traduire de la façon la plus précise possible et que ça développe d'autres idées.
Franck, vous citez à un moment donné dans le livre Dostoïevski qui trouve que même être des hommes, cela nous pèse. Je pense qu'on peut tous en témoigner par moments. Pourquoi est-ce que dès lors, il faudrait plus souvent écouter les animaux et la nature qui sont toujours très présents aussi dans vos livres ?
Il n'y a rien de péremptoire, hein. Chacun fait comme il veut. Mais enfin, moi, il y a quelque chose qui me... qui me transporte vraiment. Je suis né là, je suis né dans ces environnements-là, pas très loin d'ici. Et que ce soit les animaux, la nature, la roche, etc. Mais ce n'est pas forcément lié. Ce n'est pas tant un territoire hein, qui me nourrit. C'est plutôt la terre, vraiment. Et je pense que... C'est pour ça que je situe d'ailleurs très peu les lieux de mes romans, parce que... Je trouve que j'ai pas envie de vous rassurer, vous lecteurs, en vous disant tiens cet endroit-là, je suis passé là. Effectivement, c'est décrit comme ça. Il y a exactement ce piquet-là qui est planté là, formidable. Non, j'ai pas envie de rassurer du tout. Il y a quelques petits marqueurs comme ça, juste. Et après, voilà, le lecteur, il est sur cette terre. Il va la travailler comme moi. Et puis à lui d'imaginer les zones d'ombre du livre, mais j'ai pas envie de mâcher le travail. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de faire ressentir au lecteur, ce sont les émotions moi qui m'imprègnent vraiment tout au long de l'écriture du livre. Parce que même si c'est pas un personnage vraiment, si la nature n'est pas un personnage, il y a quelque chose de l'ordre de l'intégration de l'humain à la nature qui perdure encore, même si voilà, on en est quand même sorti joyeusement. Mais moi, je me sens quand même intégré à cette nature-là encore. Et donc, c'est plus un support émotionnel qu'un personnage à part entière. C'est, voilà, je suis intégré à ça dans mon écriture. C'est vraiment organique.
Alors Muriel, vous avez été propulsée dans une autre culture, une culture qui n'était a priori pas votre élément, pas votre langue, puisque vous avez, on le sent, vécu une expérience très forte en vous installant au Japon. Pourquoi est-ce que ces paysages, cette culture, cet esprit vous ont tant inspirée ?
Oh, ça demanderait une longue dissertation, mais je vais juste essayer de vous décrire ça brièvement, en deux points peut-être. D'abord, je me souviens de la première fois que je suis entrée dans un temple bouddhiste à Kyoto et que j'ai été fascinée par le fait que la culture japonaise vit les catégories du dedans et du dehors, en particulier dans les lieux de recueillement, d'une façon totalement différente de la nôtre, puisque nos églises sont de pierre, elles sont closes, alors que les temples japonais sont de bois et ouverts sur la brise dans les arbres, le gazouiller des oiseaux, la scène végétale du jardin. Ça correspondait à une intuition très forte de ce que doit être l'harmonie avec la nature, y compris dans son caractère le plus spirituel. Et ça me vient d'une enfance passée à arpenter à bicyclette les champs et les chemins de campagne. Et puis, autre chose qui me parle beaucoup dans le rapport à la nature des Japonais et des Asiatiques, c'est le fait que leurs jardins sont vraiment à la conflagration, à l'intersection de la nature et de l'art. C'est-à-dire qu'il y a une conception de l'art qui est finalement la nature transfigurée, transformée pour revenir à une forme de sentiment de quintessence de la nature. Et ça, c'est le plus bouleversant, je crois, cette harmonie qui naît de la compréhension que les deux sont liés, que l'artifice le plus puissant, le plus esthétique, va être aussi ce qui nous donnera accès à la substance même des choses, et je trouve ça très beau.
Ce qui vous relie également dans des trois livres qui ont l'air tellement différents, à milieu l'un de l'autre, géographiquement et dans le temps aussi, puisque chacun à sa façon nous amène en voyage, ce sont les liens, évidemment, les liens humains ou extra-humains qui vont se tisser. Sibylle, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi un roman sur la solitude à travers ce pingouin qui est un Ulysse, comme vous l'écrivez, perdu à jamais, qui n'aura jamais de descendance? Est-ce qu'à travers lui, c'est cette tragédie de la solitude du dernier des survivants de son espèce?
Il y a évidemment la tragédie, parce que ça peut pas être gai d'être le dernier de son espèce ou de voir le dernier de son espèce. En même temps, il ne le sait peut-être pas. C'est la tragédie pour l'homme qu'il voit. Je me suis vraiment attachée à ne pas me mettre à la place du pingouin, mais à me mettre à la place de l'homme. C'est l'homme qui voit et qui comprend cette situation. Je pense aussi que cet animal qui est adopté par un homme est peut-être finit par être un animal heureux, mais pas l'animal qu'on imaginait sauvage. C'est un animal qui est devenu domestique, et je le dis pas du tout en pensant du mal. Je ne crois pas que ce soit dramatique de devenir un animal domestique. C'est devenir autre chose que ce qu'on était au départ. Mais évidemment qu'il y a cette solitude. Et je vais rebondir à nouveau sur la nature, parce que c'est aussi le sentiment que le personnage peut avoir. Parfois, il regarde effectivement la nature, et tout d'un coup, et c'est ça, une espèce disparaît, il y a quelque chose qui disparaît dans le monde. Enfin, il y a quelque chose de notre poésie, il y a quelque chose de notre variété, au-delà même de la biodiversité tout court, qui disparaît. Et justement, à un moment, il fait corps avec la nature, il la regarde, et il est la vague devant lui, il est le pic rocheux au fond, il est un petit peu de la brise qui passe, il est un peu tout. C'est à la fois de la solitude et c'est à la fois un immense ensemble. Et ça, j'y tenais beaucoup. Et de ce point de vue-là, j'avais toujours été frappée par ce que racontent les gens qui ont été dans le désert et tous les grands mystiques qui ont connu le désert, c'est-à-dire en le voyant et tout d'un coup comprendre quelque chose qui dépasse son propre être sans renier votre individualité. Enfin, c'est plus sujet, justement. C'est plus ça. C'est d'être dans une chose parmi tant d'autres. C'est un sentiment que je crois que j'ai éprouvé peut-être une fois, mais certes pas dans le désert, parce que j'y ai pas été. Et c'était extraordinaire. Et ça, j'avais envie que... Enfin, vous voyez, ça va ensemble. C'est les deux qui vont ensemble. Solitude, tout en même temps. Enfin, je trouvais ça...
C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans votre roman, Franck, puisque certains de ces personnages dans ce village sont complètement solitaires. Il y en a même qui, sans tout dévoiler pour ceux qui ne l'auraient pas lu, mais qui vivent presque à la marge du monde, à la marge d'eux-mêmes, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce lien qu'ils ont eux-mêmes, dans ce lien de vivre dans leur propre univers intérieur ?
Waouh ! C'est marrant parce que on est dans un univers où la solitude peut être pesante, effectivement. Y a d'un côté Caleb, c'est une solitude choisie, on va dire, et Harry, lui, l'écrivain, c'est une solitude qu'il s'impose pour essayer de retrouver justement une forme de vérité. Après, moi, je pense que j'ai toujours été un solitaire, que j'aime la solitude. Parce que probablement je me suis nourri et peuplé de plein de choses qui me permettent comme ça d'écrire des histoires aussi. Mais c'est une forme d'éducation, je pense. C'est un mode de fonctionnement interne. Et c'est effectivement les personnages qui traversent mes livres sont bien souvent des personnages très très solitaires. Mais je les considère riches. Et ce ne sont pas des personnages fermés, ce ne sont pas des personnages qui ne sont pas prêts à accueillir les autres. Au contraire. Mais par contre, il faut les mériter. Et souvent, dans ces milieux-là, les gens, je dis souvent même que ce ne sont pas des personnes, ce sont des personnages. Ils ne vous ouvrent pas leurs bras comme ça. Ils vous permettent pas d'entrer comme ça chez eux. Et puis, il y a ce truc-là de... Quand on n'a pas les codes, c'est très, très compliqué. Parce qu'on parle souvent de ces fameux taiseux. Ça ne veut rien dire, taiseux. Un taiseux, ce n'est pas quelqu'un qui ne parle pas, c'est quelqu'un qui ne dit pas. Et ils ne disent pas, ces gens-là. Il y a toujours cette notion-là de... Mais comme dans toutes les communautés, il y a une espèce d'enfermement comme ça sur une préservation de quelque chose, de traditionnel, etc. C'est pour ça que les ruraux acceptent difficilement les citadins, et inversement. Il y a toujours une espèce de condescendance comme ça. Et, C'est bien de faire éclater un peu tout ça.
Muriel, dans votre livre, vous posez aussi cette question. Qu'est-ce qu'un homme ? C'est d'abord une solitude. Pourquoi et qu'est-ce que vous aimez chez cet homme-là que vous avez imaginé, qui regarde sa vie en face ?
Alors, je me rends compte, maintenant que j'ai atteint un certain âge tout de même, que tous mes personnages sont solitaires et que je raconte sans arrêt la même histoire, sous des formes différentes. Celle de solitude qui finissent par sortir d'elles-mêmes et par aller vers l'autre, qui passe de l'ombre de la solitude à la lumière de la relation à l'autre. Pourquoi ? Alors là, vous savez, c'est une question métaphysique et psychologique complexe qui impliquerait que je parle de moi, ce que je déteste faire. Mais c'est vrai que je suis toujours fascinée par la manière dont nous parvenons à sortir de nous-mêmes et à créer un lien difficilement, péniblement avec l'autre. Et ce sont ces instants de basculement que j'essaye de capter dans mes romans. Oui.
Créer un lien très inattendu, c'est ce qui arrive précisément dans votre roman, Sibyl, puisque entre ces deux êtres qui n'auraient non seulement jamais dû se rencontrer, mais en plus jamais tissé un lien très fort entre ce personnage de Gus, l'homme, et puis l'animal, le pingouin, ce n'était pas de l'amour ni de l'amitié, comme vous l'écrivez, même pas de la complicité, mais Gus se sentait responsable. Qu'est-ce qui va se tisser entre eux ? Qu'est-ce que ce pingouin va lui apprendre sur lui-même et sur l'homme, l'humanité en général ?
Au final, il y a la phrase que vous avez dite, et ensuite, ça va être quand même quelque chose qui ressemble à de l'amour, à de la passion. Mais c'est de la passion du... Il se trouve que c'est un animal. Il se trouve que c'est mystérieux. Il se trouve qu'on ne parle pas la même langue. Ça, c'est rien de le dire. On ne sent pas les mêmes choses. Et pourtant, on arrive à communiquer, à se comprendre, à se deviner, à croire qu'on se comprend et peut-être qu'on ne se trompe, qu'on se comprend pas et que c'est du malentendu. Et en fait, c'est de l'altérité au carré. Et c'est ça que j'aime bien. Au fond, c'est à peu près la même chose que si on rencontrait un être humain, mais c'est juste beaucoup plus spectaculaire pour nous qui aimons un animal, parce qu'encore une fois, on est obligé de se deviner, et on ne se connaît pas très bien. Et c'est aimer ce qui est vivant. Et c'est quelque chose que je trouve tout à fait passionnant, c'est tout ce malentendu entre l'animal et l'homme. Mon animal, mon chat griffe mon tapis, je vais lui expliquer de ne pas le faire, peut-être qu'il arrêtera de le faire, mais il ne va jamais comprendre que le tapis est quelque chose de joli et qu'il doit rester en l'état. Il va juste vaguement se dire « je préfère ne pas me faire engueuler ». Et ce n'est pas grave, et ça va fonctionner comme ça. Et évidemment, ça crée aussi une... D'ailleurs, comme l'altérité, comme le visage d'un certain point, ça crée une sorte de responsabilité. On ne peut être que responsable d'un être qui dépend de vous, qui ne vous a rien demandé et qui est là et qui n'aura jamais, dont vous ne comprendrez jamais ce qu'il veut vraiment. C'est-à-dire, ce n'est pas comme un enfant qui un jour grandit et devenu adulte ou adolescent vous dit « je ne suis pas d'accord avec toi, je veux partir dans ma chambre ». Là, ça n'arrivera jamais. Donc vous êtes toujours responsable de cet être qui est là. Et je trouve que c'est assez vertigineux, en même temps que vous êtes très libre et que c'est pas un asservissement.
Franck, dans votre livre, vous nous rappelez évidemment que l'existence n'est jamais linéaire. Elle peut être tissée de drames, mais parfois aussi de moments totalement inattendus. Comme vous l'écrivez, le beau vous arrive sans qu'on l'attende, à la manière d'une coulée de lumière. Est-ce que c'est pareil pour l'amour ? Et là aussi, qu'est-ce que ça nous apprend sur nous-mêmes ? En quoi est-ce que ça va révéler l'un des personnages à lui-même ?
Après, c'est une construction. C'est comme l'idée de rencontrer les autres. En fait, je suis pas sûr qu'on rencontre les autres. Je crois qu'on a deux projets, quoi, dans la vie, c'est de se rencontrer à travers les autres ou de se fuir. et la beauté, tout ce qui. C'est, est-ce qu'on est capable de voir, est-ce qu'on est capable d'accueillir ça à un moment donné? Et bien souvent, on n'est pas capable de l'accueillir. Ça rejoint l'idée de beauté dans la nature. Tout cette, c'est une construction. Ça, la nature, elle n'en a rien à faire d'être belle, d'être. D'où l'on vient, qui l'on est, cette beauté-là, on l'accueille ou on ne l'accueille pas. Moi, les gens, des paysans que j'ai côtoyés toute ma vie, la beauté, mais ça n'existe pas. Il n'y a aucune notion de beauté. La seule valeur d'ajustement, c'est le travail. Point final. Pas de sentiments. Pas de transmission des sentiments. En revanche, quelqu'un d'extérieur qui va peut s'extasier devant le vol d'un papillon, devant un arbre magnifique, etc. Mais les personnages qui m'ont élevé, ils voyaient plutôt ce qu'ils pourraient tirer de bois de l'arbre ou la pollinisation que va assurer l'abeille. Voilà. Donc tout ça, c'est une construction, mais qui se fait aussi à travers... C'est une construction émotionnelle aussi.
Et donc l'amour en est une ?
Mais est-ce qu'on est à un moment donné capable de l'accueillir, de voir les choses? Oui, mais bien sûr, bien sûr.
Il y en a une très belle dans le livre, mais on ne vous la racontera pas. Il faudra le découvrir. Muriel, toute sa vie à Rouet-Chouret, alors lui, justement, en amour, mais en amitié, il serait un maître. L'amour, l'amitié ou la paternité, est-ce que ce sont des dons? Est-ce que ce sont des talents?
Ouh là là, mais ça, c'est une question très, très, très compliquée. Je ne sais pas, Keren. Moi, ce que je sais, c'est ce que mes personnages m'enseignent. Ce que je savais au départ, lorsque j'ai commencé à écrire sur le père de Rose, c'est une indication qui était donnée par un de ses amis dans une Rose seule, qui disait à Rose, qui n'a pas connu son père, que c'était un homme qui était capable de donner et qui avait compris le sens véritable du don. Je me suis rendu compte que cette phrase me fascinait, que j'avais écrite moi-même d'ailleurs, mais qui avait surgi... étonnamment me fascinait, que je voulais comprendre ce que c'était qu'un homme qui était capable de donner. Voilà pourquoi j'ai écrit un roman qui tente d'explorer cette piste qui serait impossible de résumer en quelques mots.
On viendra pour des heures. Sybille, qu'est-ce qui survit à la mort? C'est aussi l'une des questions qui apparaît à travers vos personnages et à travers ce roman.
Très honnêtement, j'en ai aucune idée. Je ne sais vraiment pas, pourrais vous dire, survie à la mort, ou à l'amour?
À la mort.
À la mort.
Enfin, si vous voulez l'amour, allez-y.
Non. Je pourrais dire des choses très banales, j'imagine. Survie à la mort, ceux qui vivent encore, enfin ceux qui sont pas morts, et le souvenir qu'ils ont des morts, je sais pas.
Franck, la dernière question, elle est pour vous. Elle sera tout aussi simple, vous allez voir. C'est l'un de vos personnages qui s'interroge sur cette question. C'est la question des promesses, et notamment les promesses qu'on se fait à soi-même. À quelles promesses est-ce que vous n'avez jamais renoncé, que ce soit en tant qu'homme ou en tant qu'écrivain?
Ça, je vais garder la réponse pour moi.
Sur les deux?
Sur les deux.
D'accord.
Non, mais c'est... Effectivement, il y a comme ça un billet laissé par une femme sur la table de Harry qui lui pourrit la vie, mais enfin qui l'obsède jusqu'au bout. C'est « Longtemps, mes yeux se sont usés à guetter ta promesse ». C'est une déclaration d'amour et c'est une déclaration de rupture. C'est une rupture aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais moi, la réponse me convient.
C'est déjà pas mal. Eh bien, écoutez, ce sera la conclusion de cette rencontre qui passe très, très vite. Et vous en doutez qu'ils ont encore énormément de choses à dire. Si vous voulez en savoir plus sur les romans, n'hésitez pas à les lire. Et je vous invite également à rejoindre nos trois écrivains en dédicace, où ils se font un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup à tous les trois et merci à vous pour votre attention.